Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Je vous rappelle que nous sommes en direct chaque vendredi de 18h à 19h et nous pouvons vous accueillir, si vous le souhaitez, hein, en nos studios au 13 rue Victor Hugo à Liévin. Vous pourrez rencontrer les animatrices et animateurs, les adhérentes et adhérents de Micro Rebelle et discuter avec nous de l'actualité sociale, des alternatives économiques dans le bassin minier et au-delà. Je vous rappelle que Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par différentes radios associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 qui nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. C'est également le cas de Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois, qui nous rediffuse ce Micro Rebelle Hebdo chaque mardi à midi. Et bien sûr, toutes ces émissions, tous ces Micro Rebelle Hebdo sont podcastables et téléchargeables sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr. Alors en studio aujourd'hui, nous sommes quatre. Je suis donc Lucien, animateur, militant, bénévole de Micro Rebelle. Aux manettes, Luc.
Bonsoir à toutes et à tous.
Donc Luc est salarié de Micro Rebelle. Et puis comme chaque vendredi, et maintenant c'est une chouette habitude, hein, nous avons notre équipe de jeunes, à commencer par Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et notre ami Jonathan.
Bonsoir tout le monde.
Jonathan avec lequel nous aurons tout à l'heure un échange, hein, puisque Jonathan est investi et en contact avec le mouvement des Gilets jaunes qui nous occupe actuellement beaucoup à Micro Rebelle. Eh bien, on va justement commencer par leur donner la parole à tous les deux, à Aurélie et à Jonathan, puisqu'ils nous ont préparé l'agenda culturel et social de la semaine à venir.
Alors, on commence avec le samedi 15 décembre. Il y aura une inauguration de l'expo Explosion et après, samedi 15 à 11h30, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Il s'agit d'une expo photo sur les conséquences des démantèlements de bidonvilles dans la métropole lilloise cet été. Quelques 180 familles roms vivent dans les bidonvilles de la métropole lilloise en 2018. La plupart de ces familles sont à Lille depuis plus de 5 ans. Elles ont toutes vécu le traumatisme d'une ou plusieurs expulsions par les forces de l'ordre et la destruction de leur logement. L'exposition est visible jusqu'au 6 janvier de 10h à 18h30 dans la chapelle du Sacré-Cœur.
Le samedi 15 décembre, on se retrouve pour une conférence débat dès 14h à la salle Bon Accueil, rue du Stade à Lens. Donc, le professeur de philosophie Jean-François Dejour et le journaliste Jacques Kmisiak, auteur de « J'écris ton nom, liberté », paru aux éditions Nord Avril, ils y traiteront les atteintes aux libertés en Pologne.
Toujours le samedi 15 décembre, il y aura un ciné-débat autour du film « Sur les chemins des phosphates ». Docu-fiction de Malika Elmanoug et Mohamed Nadrani. Ce film retrace les convoitises européennes sur le Maroc depuis le 19e siècle et de la lutte ouvrière marocaine dans les mines de phosphate. Proposé par l'association Tiwizi 59 en partenariat avec l'AMDH Lille, association marocaine des droits humains, au cinéma L'Univers à Lille Moulin samedi 15 décembre à 20h30. Le tarif est de 4€.
Le Le samedi 15 décembre aura lieu cette fois-ci une marche de la mémoire, un ciné-débat, suivi d'une nuit dehors en solidarité avec les exilés sans-abri, mais aussi un repas partagé et le lancement officiel du concours « Ma ville de pierre, ma ville cœur ouvert ». En l'honneur des 10 ans de l'Auberge des Migrants. Donc depuis 2008, l'Auberge des Migrants intervient auprès des exilés dans les Calaisies et le nord de la France en apportant une aide matérielle, alimentaire, mais aussi un accompagnement dans la défense des droits.
Lundi 17 décembre, il y aura un ciné-débat au Ciné Movida à Arras, amateur. Témoignage sur la lutte de Naama Asfari, prisonnier politique, et de sa femme Claude Mangin, dans leur combat pacifique pour les droits des Sahraouis. Lui, figure de la résistance pacifique à l'occupation du Sahara occidental, prisonnier politique et condamné à 30 ans de prison par le Maroc. Il est détenu depuis plus de 7 ans dans les geôles de Mohamed VI. Elle, sa femme, de visite carcérale en réunion diplomatique, de plaintes déposées pour torture en manifestation de soutien, continue de mobiliser et de sensibiliser à la situation du Sahara occidental et au sort de son mari. Elle espère une libération ou au moins d'un nouveau procès juste et équitable. Soirée organisée par ACAT, une ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort, avec la présence et le témoignage de Michel Decaster, secrétaire général de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique.
On se retrouve ensuite le jeudi 20 décembre pour la réunion mensuelle des objecteurs et objectrices de Croissance 62. Donc ça se passera comme toujours au LAG de 19h à 20h30. Donc n'hésitez pas à y venir.
Enfin, pour clôturer cet agenda, le magasin gratuit du LAG, le lieu autogéré de Liévin, sera ouvert le jeudi 20 décembre prochain de 14h à 16h pour permettre à celles et ceux qui poussent la porte de trouver des articles de Noël qui leur seront utiles. Jouets, jeux, décorations, livres de jeunesse, vêtements pour enfants. Si vous avez certaines de ces choses et que vous n'en avez plus l'utilité, elles seront les bienvenues. Vous pouvez les apporter le jeudi 20 décembre de 10h à midi.
J'ajoute une date à l'agenda qui nous est tombée sous les yeux en dernière minute. Donc ce sera le vendredi 21 décembre à 14h à l'Université pour tous d'Arras, dans le cadre de Cité Philo. C'est une conférence qui s'intitule « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes » par Jacques Testard, biologiste, père du premier bébé éprouvette. Donc ça se passera à l'amphithéâtre Paul Verlaine à l'Université de l'Artois, rue du Temple à Arras. Lucien, c'est à toi.
Eh bien, merci à tous les trois pour cet agenda. Alors, cette semaine, on va compléter cet agenda par deux petites annonces. On va essayer chaque semaine un peu de donner la parole, de refléter un peu les annonces des différents collectifs, des différentes organisations du bassin minier. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui commence, c'est Aurélie.
Donc on va commencer avec le collectif Fraternité Rome qui lance une collecte fraternelle bébé au sec et ventre plein. Donc ce collectif appelle aux dons pour procurer à ces familles en difficulté des couches et du lait maternisé. Donc chaque euro est important et vous pouvez envoyer votre contribution à collectif Fraternité Rome au LAG au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin et n'hésitez pas à faire circuler l'information.
Alors j'ai vu l'annonce, je me demandais si on pouvait apporter directement du lait maternisé ou des couches, ou c'est simplement des dons.
Je pense que les dons en nature sont acceptés, effectivement.
D'accord, parce que c'était pas tout à fait clair dans cette annonce, mais bon, je pense qu'ils vont pas les refuser, d'autant que c'est pas périssable.
Voilà, donc je pense qu'on peut y aller dans ce sens-là. Jonathan ?
Ok, du coup, pour la deuxième annonce, il y a l'association Terre de Liens. Au cœur du bassin minier, Terre de Liens soutient la commune de Loison-sous-Lens dans son projet de création de zones maraîchères et intervient dans l'acquisition d'une terre pour permettre l'installation de Jonathan Bétermier. Pas moins. Son projet de maraîchage biologique correspond aux ambitions paysagères et d'approvisionnement locaux de la collectivité. Il permet la conversion vers le bio de parcelles situées dans une aire d'alimentation, de captage en eau potable, participant ainsi à la préservation de deux biens communs, la terre et l'eau. Il est donc possible de contribuer à l'acquisition de cette terre en participant à la collecte organisée par Terre de Liens. Le plus simple est de se rendre sur le site ou sur la page Facebook de Terre de Liens en Hauts-de-France. Voilà, c'est tout pour les annonces.
Merci Jonathan.
Eh bien oui, merci à Aurélie tous
aussi,
les deux.
Bien
merci
sûr.
Aurélie, merci à Jonathan pour cette préparation d'agenda et puis cette diffusion d'agenda. On va tout de suite enchaîner avec la revue de presse, hein, comme chaque semaine. Alors dans la presse, on a vraiment eu une semaine en deux temps, aussi bien nous que ce qu'ont relaté les journaux. Alors le premier temps cette semaine, ça a été jusque la locution d'Emmanuel Macron, hein, donc lundi 10 décembre. Et puis le deuxième temps hein, qu'on peut relever, c'est l'attentat terroriste à Strasbourg, mardi 11 décembre, donc le lendemain. Cet attentat qui, notamment, permet aux médias dominants, pour une large part, hein, de passer sous silence le mouvement social. Alors on va revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron. Première annonce, donc l'augmentation du SMIG. Emmanuel Macron a y compris précisé que cette augmentation ne coûtera rien aux entreprises. Donc il est clair que ce sera l'État qui paiera. Autrement dit, ce sera nous, vous et moi. Ce sera repris aux classes populaires sous forme d'impôts ou de taxes. Deuxième annonce, la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc ça, typiquement, ça permet aux patrons de ne pas embaucher. Hein, ça a été une critique qui a été suffisamment mise en avant par le mouvement syndical. Troisième type d'annonce, l'annulation de l'augmentation de la CSG. Donc ça ne concerne qu'une partie des retraités. Par exemple, les chômeurs ne sont pas concernés. On peut donc aisément conclure que ce n'est pas en lâchant des miettes. Hein, le mouvement social a affirmé que c'était des miettes. Ce n'est donc pas en lâchant des miettes que Macron fera taire la colère. Avec la lutte des Gilets jaunes et le mouvement dans les lycées et les universités, la question se pose maintenant de porter la contestation jusque dans les lieux de travail. Concernant cette allocution d'Emmanuel Macron, la Voix du Nord relève « Les Gilets jaunes sont venus, ont entendu et ils continuent ». L'article relate le rassemblement des Gilets jaunes sur le camp de base de Sétke, près de Saint-Omer, pour écouter les annonces du président de la République. Un extrait du journal. Et puis, il y a eu cette phrase du président. « Mon seul souci, c'est vous. Le bouquet final de cette allocution enregistrée qui s'est soldée par une vague de rires jaunes. Les gilets jaunes n'y croient plus. C'est de l'enfumage, déclare Géry. Je travaille avec les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas un mot là-dessus. Chacun aurait aimé avoir un petit geste du président pour faire face à un quotidien de plus en plus difficile. » J'ai perdu mon emploi en contrat aidé à cause de Macron du jour au lendemain. En décembre, je suis en fin de droit. Je n'ai rien entendu sur les chômeurs. Glisse Christophe. Freddy, retraité, se sent délaissé. Il n'y a pas grand-chose pour nous. Donc dans la presse, deuxième temps, après l'attentat de Strasbourg, le mouvement social passe au second plan, sauf s'il s'agit d'inciter les manifestantes et manifestants à rester chez eux et à suspendre leurs actions. Je cite la Voix du Nord de ce vendredi 14 décembre. Alors que Strasbourg panse ses plaies après l'attaque de mardi, la pression montait sur les Gilets jaunes pour qu'ils rejoignent la table des négociations et renoncent à l'acte 5 demain. Fin de citation. Il n'est pas sûr que cette pression de l'État soit entendue, extrait du même article de La Voix du Nord. On ne lâche rien. Le cinquième acte aura bien lieu samedi, lui ont répondu les Gilets jaunes de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire, selon lesquels la propagande gouvernementale ne passera pas. Depuis combien de temps y a-t-il un risque d'attentat sur le territoire? C'est au gouvernement d'assurer la sécurité des citoyens. Fin de citation. Cependant, sur le terrain, les tracasseries se développent. Dans le bassin minier, le groupe d'éleux des Gilets jaunes avait ainsi demandé à la sous-préfecture l'autorisation d'organiser une marche jusque Cora Lance 2. La Voix du Nord relate la réponse du sous-préfet. Par rapport à la semaine dernière, le contexte est différent, détaille Jean-François Raffi, qui est donc le sous-préfet. Le niveau de sécurité est relevé. On ne connaît pas les développements potentiels de l'attentat de Strasbourg. Fin de citation. Ceci étant, avec le niveau de colère ressenti par les manifestants et manifestantes en lutte, il n'est pas sûr du tout que les injonctions préfectorales et de l'effet. Liberté Hebdo, cette semaine, n'hésite d'ailleurs pas à annoncer, après les annonces en toc de Macron, les mouvements sociaux se poursuivent. Je voudrais continuer cette revue de presse en abordant d'une manière générale les différents angles rédactionnels choisis par La Voix du Nord et L'Avenir de l'Artois pour traiter du mouvement des Gilets jaunes. Premier angle d'attaque, décrire le mouvement des Gilets jaunes par le petit bout de la lorgnette, y compris avec une pointe de culpabilisation des manifestantes et manifestants. Le champion en la matière, c'est L'Avenir de l'Artois. Extrait de l'hebdomadaire cette semaine. En titre, Lens, Gilet jaune, une femme enceinte interpellée. Et dans l'article, un attroupement d'une soixantaine de gilets jaunes vers 1h du matin a débouché sur une première sommation des forces de police. Mais des manifestants ont lancé des projectiles après avoir déjà installé des barrières et procédé à des feux de palette. Les gilets jaunes ont refusé de quitter les lieux, selon la police de Lens. Au final, après l'intervention des forces de l'ordre, 6 personnes ont été conduites au poste. Parmi elles, une femme née en 1993, originaire de Drocourt, et enceinte de 5 mois. Fin de citation. Très sincèrement, quel est l'intérêt de ce type d'article, si ce n'est discréditer les manifestants et manifestantes? Tout ceci avec une pointe de mépris envers les classes populaires et des jeunes femmes qui se permettent de manifester la nuit alors qu'elles sont enceintes de 5 mois. Oui, c'est bien une forme de mépris de classe et une forme de mépris envers les femmes. Il ne faut pas laisser passer ça. Deuxième angle d'attaque dans la presse locale concernant le mouvement des Gilets jaunes, la défense des forces de police. L'exemple typique, c'est La Voix du Nord, qui donne la parole au syndicat Alliance Police Nationale. Extrait. Les collègues sont épuisés. Ils sont fortement sollicités depuis le début, souvent rappelés sur leurs jours de repos. On est en fin d'année. La menace terroriste est latente. Les gars ont déjà eu beaucoup de rassemblements à encadrer. Les matchs de Coupe du Monde, les manifs contre la loi travail. Forcément, l'épuisement moral et physique se fait sentir dans les rangs. Fin de citation. Dommage que le journal ne donne pas la parole aux lycéennes et lycéens en lutte actuellement et en butte aux arrestations, aux contrôles d'identité ou aux gaz lacrymogènes. Enfin, le troisième et dernier angle d'attaque choisi pour traiter du mouvement des Gilets jaunes, c'est, de manière importante, le préjudice subi par les commerçants. Les titres de L'Avenir de l'Artois sont éloquents. À l'intérieur de la galerie Carrefour Liévin, de la désolation. Avec une précision, de 50 à 100% de pertes. La Voix du Nord n'est pas en reste, avec cette semaine, pas moins de 4 articles sur le même thème. Quelques titres. Des centaines de commerçants risquent de mettre la clé sous la porte. Où l'on constate que la Voix du Nord se fait tout en nuances. Ou encore, en bloquant les magasins, les premiers punis sont les salariés. C'est un vieil argument, largement éculé. Il s'agit d'opposer les manifestants et les travailleurs. Rappelons quand même à la Voix du Nord que les travailleurs et travailleuses ont plus à craindre de leur direction que des manifestations. Autre titre. À Carrefour, le ras-le-bol de ces commerçants au bord du précipice. Au final, ce type d'article ne fait que reprendre les invocations officielles. La Voix du Nord en convient d'ailleurs, inconsciemment, en titrant par ailleurs « Pour Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, pour Bruno Le Maire, les gilets jaunes, c'est une catastrophe pour notre économie. » C'est une indication intéressante de La Voix du Nord qui pourrait amener à réfléchir concernant la suite du mouvement. C'est vrai que les acteurs économiques, et notamment les grandes entreprises, ont tout à craindre d'un tel mouvement populaire et il y a sans doute là matière à réflexion pour la suite. L'autre actualité sociale, c'est évidemment le mouvement dans les lycées. Dans la presse, on a un bel article de Liberté Hebdo qui relate à la fois les motivations des lycéennes et lycéens en lutte, ainsi que les différentes mobilisations. Quelques extraits de Liberté Hebdo cette semaine. Les lycéens réclament plus d'équité. Coût des études, sélection à l'entrée dans l'enseignement supérieur, réforme du bac. Autant de raisons qui explique la mobilisation des lycéens. Il y a un an, les coups portés par le gouvernement Philippe à la gratuité, la qualité et l'égalité d'accès à l'éducation jetaient déjà des milliers de lycéens et d'étudiants dans la rue pour enrayer la grande machine de la sélection et de la discrimination résultant de Parcoursup, de la loi ORE et de l'arrêté licence master. Le leitmotiv du quinquennat Macron était alors déjà clairement identifié: affaiblissement des services publics de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, restriction drastique de l'accès au savoir académique et universitaire, promotion des filières dites d'élite, c'est-à-dire défense fanatique des intérêts de la classe bourgeoise à tous les échelons du système scolaire français. Ce mouvement, déjà largement ancré chez les jeunes, n'avait alors pas su faire reculer le gouvernement, malgré plusieurs mois d'une mobilisation intense et largement soutenue dans le pays. Aujourd'hui, nous constatons que ce mouvement n'a jamais désarmé et que les jeunes ne se sont pas démobilisés. À la faveur de l'immense vague de colère qui secoue toute la France, des couches populaires, autour des mouvements des Gilets jaunes, mais aussi des organisations syndicales qui entrent dans la lutte, le mouvement lycéen s'est réveillé. Dans le Nord, peut-être plus que partout ailleurs, il a fait mentir une classe dominante qui, depuis un an, pariait sur sa léthargie en mobilisant massivement, à une vitesse surprenante et un degré de clarté politique jusqu'alors rarement atteint. Voilà, suite de cet article dans Liberté Hebdo cette semaine. Voilà, cette revue de presse est terminée. Une pause musicale ?
Pause musicale, j'ai choisi un titre qui s'appelle Dignity and Freedom. Voilà, ça correspond très bien d'ailleurs à l'actualité sociale, dignité et liberté. C'est de la soul très revigorante par un groupe qui s'appelle Freedonia.
Can't take love.
Nous sommes toujours en direct dans Micro Rebelle, l'hebdo magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier, magazine également d'alternatives politiques et sociales et économiques, là dans un horizon parfois beaucoup plus large. On va parler un petit peu des gilets jaunes avec Jonathan.
Ben oui, on profite que notre ami et adhérent Jonathan est au contact régulier du mouvement des gilets jaunes sur Lens-les-Vins et Nacarvin, Jonathan, c'est ça ? Pour avoir un petit peu des nouvelles fraîches, un petit peu de ce mouvement. Alors peut-être cette semaine ou ces 10 derniers jours, bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu l'allocution Macron, il y a eu l'attentat à Strasbourg avec différents développements. Mais sur le terrain, est-ce que tu peux nous décrire la mobilisation ?
Alors sur le terrain, tous les jours, il y a la mobilisation, souvent soir. Ça bloque sur Grenet, au niveau de la zone de Quadarpac. Ça bloque également aussi au niveau de Coralens 2, tout ce qui est la zone commerciale ou ID logistique. De temps en temps aussi, ils vont sur le péage de Aix pour faire le péage gratuit. Voilà un petit peu les sources. Je sais où il y a une mobilisation de prévue aussi demain, mais ça, c'est la petite surprise.
Bon, bah là, on va pas le dévoiler. Alors, si
ça, c'est sûr. Et quand tu dis blocage, par exemple à Grenet ou à Coralens 2, c'est un blocage, ils empêchent tout le monde de rentrer, ils filtrent les camions, c'est un filtrage, comment ça se passe ?
Alors, ils empêchent tout le monde de rentrer dans les zones commerciales. Alors, ils ne les empêchent pas de faire demi-tour ou partir ailleurs, mais pour pouvoir rentrer dans la zone commerciale, ce n'est pas possible. Ils les bloquent complètement, parce que justement, ce sont les enseignes qui rapportent l'argent à l'État qui veulent bloquer. Et pour des logistiques, ça bloque aussi les camions.
Est-ce que tu peux expliciter comment ça s'organise tout ça ? Autrement dit, les collectifs, tout à l'heure, on évoquait dans la presse le collectif des Leux. Il y a aussi le collectif de Lens, il y a le collectif des Nains. Comment est-ce que ça se met en place ? Quel retour tu as de ces collectifs ? Qui en fait partie ? Comment ? Ils se mobilisent quand ? C'est le soir, après le travail ? C'est en journée ? Enfin, comment est-ce que ça se passe ? Déjà, alors, parle-nous des collectifs et de leur organisation.
Alors, j'ai pas vraiment de dire. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de nouvelles des collectifs avoisinantes, même si fait partie de quelques autres pages Facebook pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais Lens lui-même ne parle pas avec les autres collectivités. Chacun organise ses propres groupes. Mais par contre, pour les mobilisations, les blocages, tout, on a un point de rendez-vous pour pouvoir en parler. Et durant ce point de rendez-vous, on parle, on bloque là ou là. Comme ça, ce n'est pas divulgué sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on a un coup d'avance par rapport au CRS avant de nous faire déloger.
Aurélie ?
Je voulais apporter quelque chose par rapport... Enfin, nuancer un peu ce que dit Jonathan. Les groupes, ils communiquent quand même entre eux. On remarque par exemple que le groupe Lens-Liévin va plus vraiment vers Lens parce qu'il y a un autre groupe qui s'est formé à Lens. Et en fait, ils s'organisent de façon à ce que géographiquement, chaque groupe est une zone en fait. Et là, on peut voir par exemple que d'autres groupes vont se réunir en fait justement pour avoir un plus grand nombre en fait.
Ouais, très bien. Et alors justement, par rapport au blocage et aux initiatives. Ça se passe le soir. Comment est-ce que les gens sont convoqués ? Comment se prend la décision ? On va aller faire tel blocage, on va aller au péage d'Aix-Noulette. Comment ça se décide tout ça ?
Alors, les blocages ont lieu le soir. On a un rendez-vous justement un soir. Là, actuellement, il y a un rendez-vous qui a lieu à 20h. Et on essaie d'avoir un vote unanime. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer en véhicule, il existe le covoiturage, ils font du covoiturage, comme ça il y a plus de monde qui se mobilise dans les lieux, c'est ça.
Alors quand tu parles de vote unanime, tu peux expliquer ça se passe comment ce vote en gros ?
Unanime, c'est vrai, c'est pour avoir une grande majorité. Dans le groupe Facebook, on se dit des idées, on bloque par ici, par là, chacun propose des... propositions et on a des admins qui agissent en conséquence. Si par exemple à tel endroit c'était fortement demandé, et ben à un moment donné, un jour ou l'autre, ils vont bloquer cet endroit. Comme il y a eu à un moment donné, ils ont bloqué, je ne sais plus où parce que j'étais pas présent, c'était sur Vimy qu'ils ont bloqué.
D'accord. Donc le vote se fait au travers de Facebook en fait.
Oui. Et par contre, pour pouvoir se... par contre, le blocage a lieu le jour même par rendez-vous sur un site précis.
D'accord. Autrement dit, on se retrouve à un site et on se déplace ensuite pour le blocage.
Tout à fait.
D'accord. Alors, on peut avoir quelques idées des discussions qui ont lieu au moment des votes, par exemple, ou au moment des échanges. Est-ce que il y a des désaccords? Est-ce qu'il y a des... Tu parlais d'unanimité plus ou moins importante. Est-ce qu'il y a des discussions pour se mettre d'accord?
À propos des blocages?
À propos des blocages.
Oui, parce que, par exemple, pour... Il y a des personnes qui votent pour pouvoir bloquer Delta 3 qui est sur Dourges, qui est une zone avec plein d'entrepôts logistiques exprès. Donc du coup, des fois, ça en parle pour voir, ça en parle avec d'autres groupes qui sont le plus proches. Par exemple, je parle d'Enacarvin, c'est dans le secteur Enacarvin Dourges. Donc du coup, ça en parle là-bas pour pouvoir bloquer Delta 3.
Et est-ce que c'est déjà arrivé que des groupes se rassemblent justement pour un plus gros blocage type Delta 3, parce que Delta 3, c'est une zone qui est quand même conséquente? Est-ce que ça peut arriver que des groupes se rassemblent pour un tel blocage?
Ça peut arriver, oui, justement. Il y a on va dire, ce dispositif qui est mis en place pour demain. Il y aura un rassemblement.
D'accord, ok. Très bien. Donc, on ne va pas en dire plus, puisque...
Suspense.
C'est le suspense. Mmh. Alors, là, tu évoquais des échanges concernant les modalités d'action. On se regroupe pour bloquer tel endroit, pour tel centre commercial... pour tel péage, pour telle zone industrielle. Est-ce qu'il y a aussi des échanges concernant les revendications, ce qu'on souhaite, enfin, les aspects un petit peu plus politiques, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des échanges là-dessus?
Ces échanges ne se font pas sur le terrain. Ils se font généralement sur Facebook. Alors, plus que le mouvement avance, plus que les exigences sont importantes. Au début, c'était le pouvoir d'achat. Maintenant, c'est la hausse du salaire pour le SMIC précisément, la CSG, la baisse de la CSG, il y a aussi le référendum populaire, tous les titres comme ça. Je pense qu'Aurélie va nous en parler un peu plus, du coup.
En effet, entre sur les groupes Facebook, notamment par exemple celui de Paris, en fait, plusieurs revendications qui sont listées. Donc il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont inscrites en fait dans ce groupe. Donc on trouve notamment, par exemple, j'en ai noté quelques-unes, donc par exemple la réduction du nombre de CDD et l'augmentation du nombre de CDI justement pour éviter que les entreprises profitent des CDD et n'embauchent jamais. Ensuite, l'augmentation du nombre de métiers, en fait, pour les chômeurs, enfin, du nombre de travail, en fait, pour une plus grande diversité et une accessibilité à un travail durable. Ensuite, l'augmentation du SMIC à 1 300 € net, une retraite minimale à 1 200 €, ou encore, par rapport à la retraite, l'âge de départ de la retraite à 60 ans pour les métiers plutôt physiques, les travails difficiles, du coup. Encore, on a des idées un peu plus poussées, comme par exemple le fait que ce qui appartient à la France, pardon, reste à la France, notamment les autoroutes, les avions, tout ce qui est train.
Je pense que dans ce cas-là, on devrait dire l'État quand même.
Oui, oui.
Je trouve la formule un peu tendancieuse, quoi. Ça fait un peu la France aux Français.
Oui, c'est un peu très. Je trouvais ça très nationaliste, mais quand même, on trouve des propositions qui sont pas du tout très. Enfin, moi, ça fait très extrême droite, mais on trouve quand même des propositions qui sont plutôt de gauche, je dirais plutôt sociale, notamment par exemple avec les étrangers. Donc. Bon, ça reste un peu nationaliste de dire oui, il faut qu'ils apprennent le français, la langue, l'histoire. Après, c'est un sujet assez sensible. Mais le fait de les accueillir à bras ouverts, ça, c'est plutôt pas mal déjà.
Et c'est aussi une proposition qui est faite.
Oui, c'est aussi une proposition. On a aussi, par exemple, le fait l'argent des péages, en fait, récolté au péage, devrait servir à la restauration des routes et à la création de nouvelles routes. Ou encore, par exemple, plus. Je dirais pas localement, mais. Par exemple, le fait que le gaz qui a été privatisé devrait redevenir public pour baisser les prix. Enfin, tout ça, c'est ce qui est annoncé. Ou aussi, par rapport aux étudiants, les bourses étudiantes à 500 € par mois minimum. Ça, ça c'est un peu ton... Ah,
ouais. Minimum 500 €, ouais.
Alors, je sais pas. Ouais, moi, il y a une question que je me pose. Alors, j'ai pas beaucoup suivi ces cahiers de doléances des Gilets jaunes. Ces derniers temps, il y a quand même eu énormément de réformes antisociales. Est-ce qu'il y en a qui disent, par exemple, supprimer la réforme de la SNCF,
supprimer la réforme du bac ou la loi ORE avec Parcoursup, parce que justement les lycéens et les étudiants sont en train de manifester. Est-ce qu'il y a cette idée d'abrogation de certaines réformes, certaines lois qui ont été promulguées ces dernières années sous le gouvernement Macron ou le précédent, peu importe, hein.
Alors, j'ai trouvé dans l'annonce, justement, cette liste aussi, le soutien un peu aux étudiants de ne pas, enfin, comment dire, la revendication de ne pas augmenter, en fait, le prix des inscriptions pour les élèves étrangers. Par contre, pour les lycéens, j'ai rien trouvé, mais on peut, pour les étudiants, développer un peu le fait que, par exemple, à Lille 3, donc je suis étudiante à Lille 3 en histoire, on a pu voir les Gilets jaunes qui se sont ralliés, en fait, aux étudiants et qui sont venus faire une AG, enfin une assemblée générale, lundi vers 19h, et ont expliqué, eux, leurs revendications et pourquoi, en fait, les Gilets jaunes devraient s'allier avec les étudiants et les lycéens, peut-être. Ça, je ne suis pas lycéenne, donc je me suis pas trop renseignée sur le sujet. Mais on trouve certaines revendications comme celle-ci. Par contre, pour la SNCF, rien. Pour les lycéens, rien. Après, c'est peut-être à voir. Je sais qu'il y a un cahier de doléances qui a été tenu apparemment à Paris, il me semble, où plein de gilets jaunes des environs ont écrit ce qu'ils voulaient. Après, comme on peut voir avec Macron, son discours, on verra bien ce qui va devenir de ces revendications.
De toute façon, on peut estimer que il y a effectivement des revendications extrêmement diverses, hein, extrêmement variées sur une large échelle. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a de vraies revendications qui sont des revendications de classe, hein, de justice sociale, autrement dit, pour une société égalitaire, en quelque sorte. Autrement dit, qui pointe une société inégalitaire. Ça, c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'il faut convertir ça aussi en allant vers la taxation des richesses, y compris en allant jusque-là. Hein. Je sais aussi qu'il y a des revendications qui portent sur les services publics.
Ça, ouais, c'est... J'en ai entendu plusieurs aussi. Ouais, ouais.
C'est vrai qu'il y a ce type de défense de services publics, parce que typiquement, Édouard Philippe a dit si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent. Et on sait ce que ça veut dire, si les dépenses baissent. Ça veut dire que réduction des services publics. Mmh. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie bagarre à mener à ce niveau-là. Moi, j'avais envie aussi d'essayer de... Sur la question des routes, du péage, il me semble qu'il y avait aussi des revendications sur les transports en commun, d'ailleurs, à un moment donné, non ?
Oui, en fait. Il me semble que c'était par rapport au fait de faire plus de transports de marchandises par la voie des trains, en fait.
Par le ferroviaire, effectivement.
Par le ferroviaire.
Ouais, qui a été peut-être libéralisé il y a plusieurs années, d'ailleurs.
C'est peut-être au niveau aussi de l'environnement. Il me semble que par train, c'est plus écologique que par avion, ou que par bateau aussi, peut-être, même. Je ne suis pas trop sûre. Non, mais...
Et que par route. Hein.
Que par route.
Forcément, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire, d'émissions de CO2 par le train. Bon, ça consomme de l'énergie électrique, donc nucléaire. C'est un débat aussi sur les ressources énergétiques, mais effectivement, c'est moins polluant en termes de pollution atmosphérique.
En tout cas, c'est vrai que si, c'est ce que disait Jonathan, si le mouvement est parti des revendications liées au prix des carburants, aujourd'hui, il a largement dépassé ça, et c'est sans doute une bonne chose, parce que un autre aspect, c'est aussi notre dépendance à la civilisation de la bagnole, quoi, finalement. On est dépendant de la bagnole, on est dépendant des péages, on est dépendant des carburants, des garagistes, enfin c'est...
En même temps, on peut se dire que ce mouvement a débuté sur la hausse du prix des carburants, enfin du carburant. Et je pense qu'aussi le mouvement des Gilets jaunes, ça montre l'idée que... on doit peut-être réformer la société avant de vouloir passer à un stade supérieur et réformer la société dans le sens où... Enfin, il faut déjà réduire les inégalités. Et ensuite, on verra pour passer, par exemple, penser à l'environnement. Après, c'est une question de priorité.
Il faut surtout que des réformes sur la transition écologique ne renforcent pas les inégalités sociales. Parce qu'en fait, cette hausse du prix du pétrole, quand on calcule par rapport à un ménage beaucoup plus aisé, par rapport à un ménage plus aisé, par rapport à un ménage qui l'est moins, on va dire, je ne sais pas, le pourcentage que ça représente dans le budget de la famille est bien moindre. Et donc là, il y a un renforcement de l'inégalité sociale quand on commence à faire ce genre de calcul. Et c'est ça aussi où là, ça entérine encore ces questions d'inégalité sociale qui sont existantes. Après, le faire avant ou après, je sais pas si c'est réellement la question, quoi. Tous les gilets jaunes disent, mais nous, on n'a rien contre la transition écologique, on veut bien payer des taxes même. Et puis, effectivement, c'est normal, les impôts, c'est pas pour ponctionner le contribuable et se le mettre dans la poche. C'est une redistribution des richesses aussi, les impôts. C'est pour faire fonctionner le service public. Donc je pense que ça, tout le monde en a quand même conscience, d'une certaine manière. Mais je sais plus où je voulais en venir, voilà, j'ai perdu.
En fait, je vais clarifier ce que je voulais dire, parce que du coup, c'est pas très clair. En fait, ce que je disais, c'est que pour les gilets jaunes, ils veulent bien faire une transition écologique, ça c'est sûr à 100%. Par contre, pas la faire comme ça, brutalement. Ils veulent peut-être aussi faire une société moins inégalitaire. Et ensuite, la transition écologique, ils la feront. Hein. C'est pas la question de rester au gasoil toute sa vie ou rester à l'essence parce que c'est trop bien les voitures avec des carburants à énergie fossile. C'est pas le souci, hein, parce que les voitures hybrides et les voitures même électriques, hein, ça, ils pourraient très bien vouloir en prendre une si c'était accessible. Mais ça ne l'est pas, justement, et c'est le problème.
Il y avait
si encore c'était une transition écologique.
Oui. Ouais.
Il y avait un aspect intéressant la semaine dernière, c'était au moment des marches climat, enfin notamment à Lille, la marche climat qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a eu quand même un rapprochement entre ce qu'on a appelé les gilets jaunes et les gilets verts. Mmh. Il y a peut-être aussi là des ponts, des
passerelles.
Des passerelles qui peuvent se faire, qui peuvent être intéressantes.
Je comprends mieux dans ce cas-là le panneau que j'ai vu à Avion, avec un gilet jaune, un gilet vert. Et un gilet rouge. Bah le gilet rouge, j'ai pas compris.
Ouais, c'est parce qu'Avion, c'est une mairie communiste.
C'était pour ça.
J'imagine. Je sais pas, je suppose.
Jonathan ?
Alors, on parle de transition écologique, donc du coup, moi, je peux te dire une petite astuce. Il y a le site internet Ecosia. Donc du coup, si on fait des recherches dessus, il y a des dons, en fait, qui sont transmis à Ecosia pour pouvoir planter des arbres. C'est gratuit, donc du coup, vous pouvez le faire. C'est un petit pas pour l'écologie et c'est gratuit.
Ben, merci pour cette annonce et puis pour cet échange rapide sur le mouvement social. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Hein. Je pense que la colère sociale n'est pas prête de s'arrêter. On va terminer cette émission par un reportage qui finalement n'est pas très loin de notre échange, hein, puisqu'on parlait de transition. Ben, c'est un reportage qui est consacré à l'agriculture paysanne et notamment au rapprochement... C'est plus qu'un rapprochement, c'est une fusion entre quatre associations de la région Hauts-de-France, quatre associations orientées agriculture paysanne qui fusionnent entre elles pour former une nouvelle association qui va s'appeler Initiative Paysanne, un reportage qui a été réalisé la semaine dernière.
Avenir, l'ADEARN, le CEDAPA et Copasol sont quatre associations qui développent leurs activités dans le domaine de l'agriculture paysanne. Chacune de ces associations ont deux ou trois salariés et quelques dizaines d'adhérents qui sont des paysannes et paysans installés ou des porteuses et porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Depuis 2016, ces quatre associations ont entamé un travail actif afin de mutualiser leurs compétences, leurs actions, leurs champs d'intervention dans l'objectif de fusionner au sein d'une nouvelle association à l'échelle de la nouvelle région des Hauts-de-France. Cette nouvelle association, les adhérentes et adhérents lui ont donné le nom de « Initiative Paysanne Territoire Hauts-de-France » ou encore, plus simplement, « Initiative Paysanne ». En ce début du mois de décembre 2018, le temps de l'aboutissement des démarches préalables à la fusion est arrivé et les quatre associations se retrouvent en Assemblée Générale Extraordinaire pour officialiser la création de la nouvelle association « Initiative Paysanne ». Micro-Rebelle était présente et nous avons demandé à chaque association de se présenter et de resituer les enjeux de la fusion ainsi que les perspectives pour la nouvelle association Initiative Paysanne.
Bonjour, donc je m'appelle Karine et je suis porteuse de projets en maraîchage bio et plantes aromatiques et médicinales. Je m'installe avec mon conjoint dans le Valenciennois, après une reconversion professionnelle où nous ne venons pas du tout du milieu paysan ou agricole. Je fais partie de l'association Avenir dans laquelle je me suis engagée au fur et à mesure de mon parcours à l'installation, parce qu'Avenir est une association qui accompagne les porteurs de projets justement à l'installation. Installation dite hors normes, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux critères classiques de la chambre d'agriculture, de reprise de ferme traditionnelle. Donc plutôt des personnes qui ont un autre parcours ou qui n'ont pas de terre, qui découvrent un peu ce monde agricole. Donc cet accompagnement se fait dans le cadre de formation collective, dans le cadre d'accompagnement individuel et aussi surtout dans un cadre de mise en relation du réseau paysan existant. On incite beaucoup les porteurs de projets à aller rencontrer les paysans déjà existants, et c'est une façon de renforcer le lien et le réseau, le maillage en agriculture paysanne de la région, c'est-à-dire les petites fermes. On remarque que tous de nombreux projets en fait de néo-paysans, comme on dit, sont plutôt centrés sur des petites fermes et les gens ne veulent pas s'installer en agriculture industrielle, ils n'ont souvent pas les moyens et ce n'est pas du tout leur objectif. Donc voilà, cette installation de petites fermes permet de promouvoir une autre forme d'agriculture en tout cas. Face à l'industrialisation croissante où beaucoup de gens, que ce soit même agriculteurs ou consommateurs, ne se retrouvent plus. Donc, en parallèle de ces activités propres à l'accompagnement d'installation, on avait aussi quelques actions de sensibilisation, des chantiers participatifs, essayer aussi de travailler avec les institutions existantes pour faire reconnaître un peu notre modèle. Tout ça pour pouvoir aider les porteurs de projets et réussir à installer le plus de monde possible sur des petites fermes.
Alors bon, on peut imaginer qu'une telle fusion de quatre organisations, même proches, c'est un processus qui est peut-être compliqué, long. Comment ça s'est passé? Quel était ce processus?
Oui, ça a été assez long et ça a demandé pas mal d'énergie parce que il a fallu d'abord se rapprocher des autres associations, sonder si eux avaient les mêmes questions, les mêmes désirs de fusionner aussi. Il a fallu faire accepter, aussi de demander à tous les adhérents s'ils étaient, leur avis. Il a fallu les consulter. Tout ça, ça a pris déjà un petit peu de temps au départ. Et puis une fois que le projet de fusion a été plus ou moins accepté par tout le monde, on a vraiment concrètement travaillé dessus. Et par exemple, la dernière année, et même plus, je ne me rappelle plus exactement quand ça a commencé, c'était quand même une journée par mois avec des personnes chargées d'étudier un peu tous les aspects de cette fusion, quoi. Avec, au départ, il y a eu quelques quand même petites tensions à régler entre les associations ont des modes de fonctionnement différents et des buts quelquefois un petit peu différents, quoi. Donc... voilà, il a fallu, mais ça s'est finalement résolu. À partir du moment où ça s'est résolu, on a vraiment avancé très vite, quoi.
Alors cette nouvelle association qui s'appelle Initiative Paysanne et même Initiative Paysoine Territoire Hauts-de-France. Initiative Paysanne, finalement, c'est un joli nom.
Oui, c'est le nom, ça, joli, je sais pas, mais ça représente bien ce qu'on veut faire. Donc parce que voilà, maintenant l'idée, c'est que justement l'initiative paysanne depuis l'installation jusqu'à la transmission finalement et tous les changements de pratiques qu'il peut y avoir au milieu, que ce soit en termes culturel, social, je pense que ça permet aussi de regrouper les forces par rapport à la sensibilisation vers l'extérieur. Je pense que ça permet de rendre le projet plus clair que le projet d'agriculture paysanne. Ça permet de le recadrer dès le départ, parce que je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui aujourd'hui viennent chez Avenir, ils ont une petite idée, c'est sûr qu'ils ne veulent pas faire comme l'agriculture traditionnelle, mais ils n'ont peut-être pas trop d'autres notions sur justement l'agriculture paysanne, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter en termes de projet de société. Enfin, je ne suis pas sûre qu'ils remettent ça dans un cadre aussi général, et je pense que le fait d'être dans une association comme ça, ça peut aussi leur permettre de donner des perspectives plus loin.
Donc, je suis François Théry, je suis paysan à Gavrel, dans le Pas-de-Calais, près d'Arras, sur une cinquantaine d'hectares en polyculture, agriculture biologique. Voilà, j'étais président du CEDAPA à un moment, pendant quelques années, et surtout j'ai commencé ma carrière d'agriculteur, de paysan, avec le CEDAPA, qui m'a permis, qui est une association paysanne en Nord-Pas-de-Calais, qui existait en Nord-Pas-de-Calais depuis plus de 30 ans, et qui m'a permis de comprendre ce qu'était le développement, un mode de développement durable. En agriculture, c'est-à-dire autonome, économe en énergie, en intrants, qui crée de la valeur ajoutée, enfin voilà tout ce qui peut contribuer au bien-être, au développement de l'emploi, à la protection de l'environnement et à la solidarité, à la production aussi de produits de qualité. C'est tout le travail qu'a essayé de faire le CEDAPA pendant 30 ans. Avec ces dernières, depuis plus de 10 ans aussi, une action sur le renouvellement des générations et donc des actions qui visaient à sensibiliser les paysans en place à l'intérêt de transmettre leur exploitation. Voilà, donc le CEDAPA, c'est une association avec deux animatrices qui fait un boulot d'accompagnement, de formation, de sensibilisation dans les établissements scolaires, lycées agricoles, etc. Et puis de promotion en général de l'agriculture paysanne, quoi.
Alors donc le CEDAPA fait partie des quatre associations qui ont enclenché ce processus de fusion. Selon toi et selon le CEDAPA, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est visé? Quels sont les enjeux et les perspectives aussi?
L'enjeu, c'est de continuer à exister, de continuer à faire vivre une structure, une entité associative qui regroupe des militants pour être efficace et accompagner, être visible sur la question du développement agricole, quoi. C'est-à-dire quel type de développement agricole on veut? Est-ce qu'on veut subir le développement qui est porté par la FNSEA et donc la profession majoritaire et qui vise à s'aligner sur la compétitivité, la nécessité d'être compétitif, ou est-ce qu'on veut un développement agricole qui serve l'intérêt général et donc qui passe plutôt par la solidarité, la coopération, le respect de la nature, voilà, et la création d'emplois et de valeur ajoutée. Voilà, et nous on pense que cette question-là est fondamentale pour maintenir une agriculture, une alimentation de qualité, maintenir des emplois sur les territoires, préserver la ressource naturelle, l'environnement, et tous ces intérêts, tous ces enjeux collectifs ont besoin d'être portés. Alors, ils sont portés par un syndicat, par la Confédération paysanne, à laquelle nous sommes relativement, vis-à-vis de laquelle on est très proche. Mais la revendication ne suffit pas pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices. Les paysans et paysannes ont besoin aussi d'exemples, qu'on leur montre des voies, qu'on leur montre que c'est possible de se développer autrement, de faire une agriculture de qualité et qui respecte tous ces enjeux. Et c'est un peu l'objectif de l'association, de montrer que c'est possible, d'accompagner ceux qui veulent transformer leur modèle de développement. Voilà, c'est l'enjeu, quoi, c'est l'enjeu de l'association.
Bien, c'était donc un extrait d'un reportage consacré à l'agriculture paysanne et notamment à la fusion de quatre associations de la région Hauts-de-France, des associations de l'ancienne Nord-Pas-de-Calais et de l'ancienne Picardie. Le plus simple, si vous en êtes d'accord, c'est que vous preniez connaissance de l'intégralité de ce reportage en allant sur notre site, micro-rebelle.fr. Vous pourrez le podcaster ou le télécharger dans son intégralité. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, ce micro-rebelle hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau micro-rebelle hebdo, de nouvelles actualités sociales, économiques, politiques. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.
Picardie, rue de Paradis. Elle fait la manche à la station Blanche. Il tend sa sébile, métro Belleville. Je suis désolée, j'ai plus de monnaie. Sur un carton, rue d'Aubenton. Au pied du mur, une couverture. Un homme s'endort à Gare du Nord. Moi je presse le pas, c'est l'heure du repas. Tu dors où toi? À Mars dors-moi. En bas de chez moi, tu dors dehors. Quand il fait noir, quand il fait froid. Sur le trottoir, tu fais le mort. Tu dors où toi? À Mars dors-moi. En bas de chez moi, tu dors dehors. Quand il fait noir, quand il fait froid. Sur le trottoir, tu fais le mort. Châtelet, Léal, galère banale. Splendeur et misère dans le RER. Visage fermé sur la ligne C. Regard saumâtre sur la ligne 4. Mesdames et messieurs, je croise ses yeux. Un sourire crispé comme pour m'excuser. Une pièce dans son gobelet, cruelle charité. Coupable impuissance de ma bienfaisance. Coupable impuissance de ma bienfaisance. Coupable impuissance. Tu dors où toi? À Mars dors-moi. En bas de chez moi, tu dors dehors. Quand il fait noir, quand il fait froid. Sur le trottoir, tu fais le mort. Tu dors où toi? À Mars dors-moi. En bas de chez moi, tu dors dehors. Quand il fait noir, quand il fait froid. Sur le trottoir, tu fais le mort.